Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ce nouvel opus d'un épisode des Jarrettes, l'émission 100% série, 100% ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. En bref, on a une demi-heure pour refaire le monde des séries, et rien de tel que la fine fleur de l'humeur critique, des journalistes passionnés, nous l'espérons quand même un tout petit peu passionnant, pour que ce voyage se passe dans les meilleures conditions. C'est en tout cas ce qu'on va faire maintenant et tout de suite.
Next one.
Je suis Cédric Moulon de Télécapsat Hebdo et pour m'accompagner cette semaine, Asma El Mardi de Brain Damages.
Bonjour.
Bonjour Asma, Constance Jamais du Figaro.
Salut.
Et The Last One, votre note de liste, Ronan Cross de Cinémateaser.
Et on dit Chrome et bonjour Cédric.
Bonjour Ronan. Ensemble, nous allons aborder un sujet difficile, actuel et au moins si sensible que le bouton déclencheur d'une ogive nucléaire. Philip Roth, un grand écrivain américain, dit de lui que c'est un menteur compulsif, un ignorant, un fanfaron, un être abject, animé d'un esprit de revanche et déjà quelque peu sénile, qui souffre de narcissisme aigu. Et comme il ne parle pas de Thierry Ardisson, mais de Donald Trump, il y a quand même de quoi s'interroger, car depuis le 20 janvier dernier, le monsieur est devenu le 45e président des États-Unis, entraînant dans la consternation la plus totale une bonne partie de l'Amérique et du monde. Qu'en est-il du côté d'Hollywood et des séries TV ? En bref, est-ce que l'élection de Trump a changé quelque chose dans la manière de faire des séries aux États-Unis ? Et si oui, en quoi ? On en discute tout de suite dans un épisode et j'arrête.
100 days in office, so many accomplishments, lowered my golf handicap, my Twitter following increased by 700, and finally, we can shoot hibernating bears. My boys will love that.
Sir, here's a new bill that you must read immediately. It lowers taxes for only Republicans.
Can't Fox News read it and I'll watch what they say?
No, you have to read it.
Oh, God, this is horrible. This was supposed to last me the whole 4 years.
Marge, please, give the President of the United States some time. He's only 70 years old. Help! They're taking me back to where I came from!
Where is that?
I don't remember!
100 days. We are 6.8% of the way home.
Bien souvent, on dit que les séries sont le miroir de notre temps. Elles éclairent, elles dénoncent, elles prévoient et parfois même elles se mobilisent. Alors qu'en est-il vraiment pour Donald Trump? Qui veut commencer?
La question de Donald Trump et de la fiction, en fait, elle se pose même avant l'élection de Trump. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Trump est un personnage de fiction avant même que la fiction s'en empare. Puisque Donald Trump est en fait une créature médiatique, on l'a vu déjà dans Maman, j'ai raté l'avion, il apparaissait dans Maman, j'ai raté l'avion 2, si je me souviens bien. Ouais. Donc l'Amérique l'a déjà vu, il était à la télévision. Donc en fait, on a vraiment un personnage médiatique qui est devenu un personnage politique par en plus une sorte de jeu médiatique, parce qu'on sait que, en tout cas l'histoire raconte que c'est Obama qui, en se manquant de lui, aurait enclenché l'élection. Donc finalement, en fait, à la fois c'est un territoire très dangereux pour les Américains, et je pense qu'on va pas revenir ici sur la question de savoir si Donald Trump est oui ou non un bon président américain, ça je pense que c'est pas la question ici, mais j'ai l'impression que en fait, c'est de l'eau bénite en fait pour les séries, parce que c'est un personnage de fiction plus grand que la fiction et les Américains ils adorent ça. Donc en fait, ils ont élu en fait un personnage de fiction à la tête de leur pays pour le pire évidemment, mais peut-être pour le meilleur des séries.
En quoi ça sera le meilleur? Parce que en fait, on a l'impression que le personnage est déjà plus grand que la fiction. C'est-à-dire qu'il est notamment par exemple le créateur de VIP disait au départ on avait l'impression de faire quelque chose de satirique, une satire, et aujourd'hui on a l'impression de faire un documentaire. Donc à quel moment c'est une source d'inspiration pour les
Kevin
auteurs?
Kevin Spacey a dit la même chose assez récemment. Il a dit que tout ce qu'ils avaient imaginé dans House of Cards était tellement farfelu et c'est devenu réalité. Et finalement, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent inventer de plus fou dans les prochaines saisons de House of Cards par rapport à ce qui a déjà été vu dans même pas un an de Donald Trump.
Constance.
Enfin, Robin Wright Penn, qui était la partenaire de Kevin Spacey, disait la même chose. Elle disait, ils nous ont un peu piqué toutes nos idées. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qui n'a pas été fait dans la réalité? Et c'est vrai que la saison 5 de House of Cards, elle était très shakespearienne, pleine de complots, etc., très noire, mais finalement elle pâlissait quand même par rapport à la réalité, et ça faisait plus du théâtre qu'une vraie satire de la politique.
Mais ce qui est presque inquiétant, c'est que la première manière qu'on a d'aborder Trump, c'est de parler de l'influence des séries, de voir comment finalement on a vraiment basculé nous dans la fiction en fait. Et ça, c'est un truc que les Américains adorent. Je pense qu'ils ont comme ça des séismes. Ils ont le 11 septembre, ils ont vu à la télévision des choses qu'ils n'avaient pas, qu'ils pensaient impossibles, en tout cas, qui étaient plutôt dignes des films de Michael Bay. Et là, tout d'un coup, ils voient à l'arrivée à la tête du pays, Frank Underwood, effectivement, House of Cards. Et je crois même que Frank Underwood, il est presque plus, il est moins caricatural. Il voit presque, et c'est là l'ironie, il voit un personnage du Saturday Night Live arriver à la tête du pays. Ce qui change, à mon avis, totalement la vision qu'on peut avoir d'une fiction, de l'impact d'une fiction. Et je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, et de ce qu'étaient les fictions du futur, les fameuses dystopies, où ils sont en plein cauchemar, en fait.
Oui, mais à l'inverse du 11 septembre, par exemple, où toutes les séries américaines ont intégré à un moment ou à un autre, dans un épisode ou dans une saison carrément, ou dans des personnages, ou carrément inventer des personnages de série qui résultaient du drame qu'ils ont vécu ce jour-là, Trump, toutes les séries ne peuvent pas l'intégrer. Ou elles le font de façon insidieuse, Constance.
Moi, je trouve que en fait, Trump, c'est un peu le ça, c'est l'inconscient des séries, parce qu'il il a gagné l'élection en novembre, il est entré au pouvoir au mois de janvier en mettant en place sa politique. Et donc, pour la plupart des séries qu'on a vues, nous, dans cette saison-là, le tournage avait commencé au moment des primaires et s'est achevé peu de temps après qu'il ait pris le pouvoir. Donc, certaines séries ont pu s'adapter. Il y a clairement un repositionnement d'Homeland sur les fake news. Ils ont bougé des arches narratives pour coller un peu plus à l'actualité. Et après, il y a beaucoup de gens, les équipes d'Andmetel, les équipes d'Orange du New Black, de Glow, qui ont dit... Nous, quand on a écrit, on ne s'est pas rendu compte que quelque part, on avait capté la psyché américaine, cette psyché américaine qui a porté Trump au pouvoir. Et c'est peut-être pour ça que nos séries sonnent soit effectivement des dystopies très pessimistes, soit un appel à la résistance cachée. Mais nous, quand on l'a écrit à ce moment-là, on ne le voyait pas comme ça. Et on s'est rendu compte qu'on avait pris le pouls de l'Amérique et pas forcément celui qu'on avait envie de voir.
Il y a un sénateur démocrate qui a dit « La culture américaine du divertissement dans sa façon d'écrire la présidence œuvre à légitimer un Donald Trump comme candidat crédible au poste le plus élevé du pays. » Est-ce que vous pensez que c'est dans certaines séries ont quelque part amené Trump amené la possibilité que Trump soit président?
Moi, j'ai l'impression, c'est ce que je disais un peu avant, que c'est presque le gag et la blague qui a amené Trump, en fait. C'est-à-dire que c'était tellement... purement américain de mettre ce type pareil au pouvoir, c'était une sorte de scénario de série, c'est-à-dire que on pourrait imaginer Chuck Lorre ou je ne sais quel autre auteur de sitcom, il aurait pu très bien écrire c'est l'histoire d'un mania complètement débile qui devient président des États-Unis, il aurait fait une très bonne comédie, je sais pas, avec Bill Murray ou quelqu'un d'autre. Et là ça participe aussi de l'imaginaire américain. Ils ont quand même eu Reagan avant, il faut pas l'oublier, qui était aussi un acteur
et Bush et
Schwarzenegger, ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un territoire à ça. Après, effectivement, ce qui est étrange, c'est de voir à quel point les fictions, elles ont... La fiction, peut-être malgré elle, a joué un rôle dans son élection, et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Et ça, rien qu'à voir l'équipe du Saturday Night Live, ou même Jimmy Fallon, qui, tout d'un coup, prend des airs un tout petit peu contrits pour parler de Charlottesville. À un moment, on a envie de lui dire, mais fallait pas, à un moment, mec, l'inviter dans ton plateau et jouer avec lui et toucher ses cheveux.
Ouais, ça, ouais,
mais
ça.
Tu parles du fait aussi que Donald Trump est un personnage médiatique. Bon, il l'a été depuis longtemps, on l'a vu dans Une Onde d'Enfer, on l'a vu dans pas mal de séries, dans des films, etc. Mais on l'a aussi vu dans Les Simpsons. Il y a plus de 16 ans, déjà à l'époque, on l'imaginait président et Matt Groening expliquait qu'il recherchait une personnalité qui permettait d'envisager le pire pour que Lisa arrive derrière pour essayer de récupérer l'Amérique au fond du trou. Et c'est exactement un peu ce qui est en train de se passer de nos jours. En fait, l'Amérique est au fond du trou, mais est-ce qu'il va la mener encore plus loin, en fait ? C'est là est la question.
Moi, je me méfierais un peu d'interpréter les choses comme ça. Enfin, Trump, ce qu'il a rendu très célèbre et populaire, c'est aussi The Apprentice, qui est de la télé-réalité. Mm-hmm. Et c'est quand même, ses biographes sont quand même tous d'accord pour dire que ses ambitions présidentielles datent pas de récemment. C'est des choses qu'il a caressées dans les années 90. Et donc, faire porter aux séries la responsabilité d'avoir assombri la présidence, ou je sais pas, c'est comme dire que les jeux vidéo incitent à la violence. Moi, ça me gêne un peu.
Mais en même temps, il y a un climat, tu disais, c'est une sorte d'inconscient collectif. Effectivement, ce qui est amusant, c'est que donc il y a le film Ça qui est sorti en salle, ouais. Et il y a énormément de mèmes sur internet qui circulent où le clown est remplacé par Trump. Et vraiment, Trump incarne une sorte de refoulé de l'Amérique, de cette Amérique progressiste qui a été celle d'Obama, et qui a été incarnée dans les séries, dans ses évolutions. Et en même temps, on a oublié de régler le problème, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu tout ce qui avançait. français et on n'a pas vu que derrière il se passait quand même toujours cette Amérique blanche, rétrograde, et évidemment elle nous a pété à la gueule, parce que pour le coup je pense que la question de Trump elle n'est pas purement américaine, elle est mondiale. Et ça change totalement la perception. On parle, si on fait un tout petit peu de dérivé vers le cinéma, on dit beaucoup qu'il y a le cinéma trumpiste ou anti-Trump, par exemple le film Get Out qui a été un grand succès, le film de Jordan Peele qui est un film d'horreur sur le racisme, sauf que Jordan Peele s'en défend totalement de parler de Trump. Lui il parle d'un contexte américain, et en fait c'est ce contexte américain là qu'on n'a pas vu venir, je pense.
Enfin, moi je trouve aussi qu'il y a beaucoup de séries que nous on voit chez nous qui défendent, enfin qui mettent en garde contre l'Amérique de Trump, c'est quand même aussi que tout le milieu hollywoodien est quand même très libéral et très démocrate. Et il faut aussi voir que l'élection de Trump, peut-être que c'est un de tes points qui va venir ensuite, ça a aussi fait réfléchir les patrons de network en disant, est-ce que les séries qu'on propose sont vraiment taillées à l'audience qu'on pourrait avoir, d'où cette rentrée, beaucoup de fictions sur les Navy SEALs, sur les militaires américains. Et c'est pas forcément des fictions qu'auront un acheteur ou un acquéreur en France, et qu'on verra, il y a quand même une fiction américaine qui est restée populiste et populaire.
On en parle juste après.
Patriotique surtout.
What the fuck, Amy? I am putting out two fires in there, and I turn around to find out that you have set fire to the fucking fire truck.
Sorry.
The level of incompetence in this office is staggering.
We are going to get the card back and replace it with a new one.
Yeah, that's right.
It's simple.
You're gonna get on it. You are gonna shut this the fuck down, okay? Because I am busy in there apologizing to that fucktard.
Alors justement, on a parlé juste avant cette petite pause. Est-ce que la façon d'écrire, est-ce que Trump influence déjà la façon d'écrire des scénaristes des séries aujourd'hui? Consciemment ou inconsciemment, pour bonne ou mauvaise raison.
Bah, on peut le voir aussi dans pas mal de sitcoms. Il y a des petites piques qui sont balancées alors que ça n'a rien à voir avec le sujet même des épisodes ou des narrations qui sont lancées dans, par exemple, Jane the Virgin qui prend position sur l'immigration et sur la marche des droits, ou je vais citer quand même La fête à la maison 20 ans après qui charrie Trump assez régulièrement. Je ne sais pas si on a changé l'écriture, mais c'est vrai qu'on peut voir de nouvelles séries qui sont très noires, très dystopiques, qui envisagent un futur presque post-apocalyptique, comme si cette présidence allait mener à la guerre et à un État comme Handmaid's Tale, par exemple, qui revient beaucoup sur l'état d'urgence, le terrorisme, au-delà de la thématique féministe. Et je pense franchement que les séries, même si inconsciemment, comme House of Cards ou ailleurs, ont une incidence sur Trump et envisagent peut-être le pire après Trump. Mais justement, donc ils essaient de réveiller les consciences.
Mais justement, connaissant le personnage de Trump et justement les séries comme SNL qui sont vraiment très féministes, pour le coup, est-ce que ça va pas aussi permettre à des auteurs, faire émerger des séries comme ça ou écrire de nouvelles séries comme ça? Est-ce que c'est pas un moyen de lutter contre Trump? Ou les idées qui véhiculent, pardon.
Enfin, en tout cas, le créateur de Handmaid's Tale avait dit, ça nous donne une grosse responsabilité, cette lecture féministe nous donne une grande responsabilité pour la saison 2 de ce qu'on va écrire. Et après, moi, j'ai envie de dire, la réponse à ta question, est-ce que Trump influence les séries? Est-ce qu'on va pas le voir maintenant? Un an plus tard, après l'élection, quand les scénaristes ont pu voir exactement ce que c'était la présidence de Trump. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu disais, Asma, c'est-à-dire que c'est pas mal les formats sitcom qui a réagi en premier parce que les temps d'écriture sont plus courts. Et outre Jane the Virgin, il y a un épisode de Blackish où ils se disputent dans le bureau pour savoir pourquoi Trump a été élu. On se rend compte certains n'ont pas voté du tout parce qu'ils pensaient que Clinton allait gagner. Et ce que disaient les créateurs de sitcom, le but, c'était pas de blâmer les électeurs de Trump, c'est de nous faire réfléchir et de nous faire discuter pour qu'on comprenne comment en arriver là.
Et c'est ce qui se passe à peu près avec American Horror Story cette saison. Trump est un peu le sujet. On nous a beaucoup parlé du fait que pendant tout le marketing autour de la saison 7, qu'on allait se pencher sur les élections et sur Trump, etc. On a même vu des teasers avec un masque de Trump. Mais en fait, le vrai sujet est l'Amérique profonde qu'on a oublié. C'est Redneck, c'est Hillbilly qui galèrent au quotidien et qui ont voté pour une personne qui incarne le diable et qui justement... influence encore plus ces personnes et dédramatise la parole raciste, l'antiféminisme, le sexisme et tout ce qu'on connaît de Trump aujourd'hui.
J'ai l'impression, moi, qu'il y a deux temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu l'après-élection où il fallait finalement faire une sorte de mea culpa. C'est-à-dire, on a participé sans s'en rendre compte à l'élection de Trump parce que on a décrédibilisé la figure du président. On a ri de toutes les choses. On a ri de la possibilité qu'il soit là comme si c'était un gag et on s'est rendu compte que le gag était réel. Donc il y a une sorte de, c'est presque un peu désagréable. Il fallait que chaque série place sa vanne anti-Trump pour nous montrer qu'elle était du bon côté. Mmh. Et ce qui, évidemment, est un peu artificiel, mais on sent qu'il y a ce besoin-là aussi dans cette Amérique, c'est de se positionner, c'est-à-dire pro et anti. Et évidemment, le milieu culturel américain, il est plutôt anti-Trump parce qu'il est aussi très, très issu, en tout cas pour ceux qu'on connaît le plus et ceux qu'on aime le plus, d'une vision un peu européenne de la culture. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un deuxième temps qui est de rentrer plus en profondeur sur le problème de l'Amérique, sur ce que l'Amérique a caché justement. Tu parlais des rednecks, tout ça. Ce qui n'est pas étonnant que dans les années 70, le cinéma américain parlait déjà de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est presque dans un retour en arrière. Mmh. C'est-à-dire qu'on massacrait la tronçonneuse, ça parlait de ces rednecks qu'on n'avait pas vu.
Ou La dernière maison sur la gauche.
Exactement. Et donc là, tout d'un coup, quand Ryan Murphy, qui le fait à la fois avec une forme d'opportunisme, comme tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, il nous vend la série American Story Trump, c'est pas exactement le sujet, mais en même temps, il touche à quelque chose d'un cauchemar américain et il touche à des problématiques qui sont politiques. Et tu te posais la question que ça allait faire des séries plus féministes. Mmh. Non, tout simplement des séries plus politiques et des séries plus responsables de ce qu'une fiction raconte.
Donc ouais. Là, ça serait peut-être presque une vertu positive, c'est-à-dire que ça obligerait les Américains à s'interroger, à faire un retour sur soi.
Ça nous obligerait à les regarder différemment. Je ne suis pas sûr qu'elle serait écrite différemment, mais je pense que ça l'oblige à les regarder différemment. L'auteur de The Handmaid's Tale, Margaret Atwood, le roman date de 1985. Et elle dit dans une interview au Guardian, elle dit « Je n'ai pas écrit un livre anti-Trump puisque mon livre date de 1985. » Sauf qu'on se rend compte que les thèmes qu'elle développe sont des thèmes qui reviennent. Donc en fait, c'est une question de lecture et de prisme de lecture. Et ça change totalement la perception. Ce qui fait que Les Simpsons, qui nous faisait marrer, devient encore plus politique. American Horror Story, qui a toujours été en fait une série très politique, la saison sur Coven, la saison sur les sorcières, était une saison extrêmement féministe, sauf que maintenant, on accentue cette lecture politique.
Et aussi, est-ce que Handmaid's Tale aurait fait une si forte impression si Clinton avait été au pouvoir ? Par exemple, la vague de victoire aux Émis, est-ce que c'est pas aussi un acte politique du corps électoral des Émis pour dire cette série résonne avec nous ?
C'est un acte, parce qu'on voit très bien que la plupart des récompensés sont soit des femmes, comme Big Little Lies ou Handmaid's Tale, ou des personnes issues de la diversité, comme, j'ai oublié son nom, de This Is Us. Merci. et du coup, il y a même Alec Baldwin qui a été récompensé pour son interprétation dans le SNL de Donald Trump, et qui était attendu. On savait tous qu'il allait recevoir la récompense. Mais justement, les Emmys, ça a peu été le stand-up contre Trump, qui justement n'a jamais eu d'Emmys pour The Apprentice, histoire de dire on va essayer d'être la vague de contestataire face à toutes ces paroles. Mais je suis même pas sûre en fait que ça va apporter. Un contre-courant face à Trump, parce que pour lui, il s'en fout et tout son électorat, en fait, en quelque sorte, rejette tout cet Hollywood,
enfin,
tout
ce phase. Il s'en fout, mais il a quand même réagi aux Emmys.
Mais lui, il réagit toujours sur Twitter. Donc, c'est Donald Trump.
C'était juste une aparté, c'est pour dire que les Emmys ont fait exactement ce qu'ont fait les Oscars en février, en récompensant Moonlight. On s'est beaucoup posé la question s'il n'y avait pas eu Trump, est-ce que Moonlight aurait autant, entre guillemets, imprimé les votants des Oscars ? Parce que Moonlight, ça représente tout ce que l'Amérique de Trump n'est pas.
Non, ce que tu veux dire, en fait, c'est peut-être que ça ne change pas le visage des séries, mais ça change les séries qu'on va regarder ou la manière de les regarder.
Et justement, je crois que le problème, il se situe au fait de récompenser Alec Baldwin pour sa prestation en Donald Trump, parce qu'on est à la frontière entre, justement, le star system, la manière de jouer. Parce que pour avoir suivi le Saturday Night Live pendant les élections américaines, on avait d'un côté une Hillary Clinton qui était vue comme une espèce d'hystéro coincé, et lui qui était en fait un personnage purement comique et purement burlesque. Et en fait, la fiction a pris le pas. C'est-à-dire que le public a oublié qu'ils n'avaient pas élu Alec Baldwin, qu'ils avaient élu vraiment Donald Trump. Et l'épisode dans lequel ils ont invité Donald Trump en guest principal est un summum de gêne. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui rient avec un type en ne se rendant pas compte du discours qu'il tient. On a l'impression que pour eux, tout ça, c'est un gag. Et en fait, c'est presque ça le deuxième temps des séries Trump, c'est que en fait, on en rit plus. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a une série sur Black Pills, You Got Trump, qui imaginait en fait comment ça se passerait si Trump était élu. Bah, manque de bol, il a été élu. Donc là, la série, tout d'un coup, elle est plus très drôle en fait à regarder.
Ça nous ramène à une autre époque ici, où à l'époque, on avait accusé
les
guignols et la marionnette de Chirac
à l'époque,
de l'avoir rendu sympathique et d'avoir favorisé les votes.
Effectivement, et on entendait avait Julia Louis-Dreyfus dans VIP, et cette vision en fait de la politique, évidemment qu'il faut la ridiculiser la politique, mais il y a aussi une responsabilité dans la comédie de ne pas rendre ces personnages en tout cas séduisants. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un flou à un moment où on trouvait ça finalement beaucoup plus drôle d'avoir des crétins que d'avoir des gens pertinents. Et House of Cards dans un autre style a montré ça aussi, c'est-à-dire qu'on était fasciné par le mal. Le fait d'avoir des séries télévisées qui ont énormément valorisé des personnages négatifs, on pourrait réfléchir à ça en se disant, est-ce que ça n'a pas renversé la vapeur sur la question de la moralité aussi ?
C'est-à-dire qu'ils ont élu un anti-héros.
Exactement.
C'est un peu comme le président Logan dans 24.
Exactement.
C'est un peu ça.
On va en reparler de 24 d'ailleurs. She died in agony, which is exactly what I'm going to make you do. Unless you tell me what I want to know.
Start talking to me! You want to know I kill your girlfriend? I kill her. I kill your bitch! I did it!
Please, you've got to stop him. Please.
He needs answers, and he's going to get them.
I can use this. There's enough here. I don't need any more. Tell him I don't need any more. Please.
You're not going anywhere.
C'est un extrait de 24 heures chrono, entre guillemets, à la grande époque. Est-ce que, au-delà du personnage de Trump, est-ce que la figure emblématique du président des États-Unis, qui a servi de motivation à nombreux héros de série, dont Jack Bauer, est-ce que ça change pas tout par rapport à ça ? Est-ce que si aujourd'hui les auteurs de 24 faisaient 24, est-ce qu'ils auraient envie d'aller sauver Trump ?
C'est une vraie question, et je pense même aux séries catastrophes, aux films catastrophes. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement au cœur d'une catastrophe que la question du pouvoir, en fait, s'est dissolue. C'est-à-dire que, il y a vraiment plus de, il y a plus, en fait, pour eux, je pense qu'il y a deux Amériques. Il y a une Amérique qui n'a plus de président, en tout cas qui ne considère qu'elle n'en a plus, et une qui, finalement, vit dans un autre temps. C'est-à-dire que, on voit ce qui s'est passé à Charlottesville. On a vraiment l'impression de dire Marty monte dans la DeLorean, on est reparti en arrière, quoi. C'est donc il y a vraiment une sorte de double temps, mais en fait qui est au cœur des États-Unis depuis très longtemps. Je crois qu'on est en train de découvrir, le monde entier est en train de découvrir que fondamentalement les Américains sont de droite voire d'extrême droite, ce qui pose quand même
une grande partie
des Américains. New York en fait et Los Angeles, c'est pas vraiment l'Amérique. C'est à part.
Le scandale des statues de la guerre de sécession, ça montre bien ça. Enfin, il y a un attachement réel de ces États-là qu'on ne connaît pas, qu'on ne visite pas. Une histoire à l'esclavage, un traumatisme qui n'est pas résolu.
Comme certains swing states, en fait, qui ont été complètement remportés par Donald Trump alors qu'on s'attendait qu'ils aillent aux démocrates, parce que, justement, c'est une Amérique délaissée, qu'on a oubliée, qu'ils soient noirs ou blancs, ils sont partis voter pour une personne qui leur vendait du rêve et qui leur disait qu'ils allaient réussir à avoir du boulot, que des industries allaient revenir, que les mines allaient rouvrir, etc. Et donc, du coup, toute cette Amérique qu'on ne connaissait pas a émergé d'un coup et à montrer son patriotisme d'une autre manière, son envie de l'American way of life, de réussite comme celle de Donald Trump, en fait, qui n'est pas vraiment une réussite, qui est plus un héritage qu'autre chose.
Et effectivement, pour répondre à ta question, ce qui fait que là, on ne sait plus si on doit sauver l'Amérique, en fait, c'est-à-dire que c'est cette question-là. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui, au contraire, luttent pour montrer que l'Amérique mérite d'être sauvée. Et donc, qui vont valoriser, je pense à la série Netflix One Day at a Time, qui était donc une sitcom. Mm-hmm. Et vraiment, pour le coup, je pense qu'il posait les couches, c'est-à-dire que c'était une famille hispanique, une mère célibataire, elle était ancienne Marines, donc on traitait aussi de la guerre en Irak, la fille était lesbienne, enfin, il y a vraiment une sorte de... Je pense que Trump, pour lui, c'est un cauchemar, en fait, quand il regarde ça, et qui était une série profondément progressiste, et qui faisait de son progressisme une sorte de flambeau... qui était très patriote aussi, et qui disait, mais en fait, l'Amérique, c'est ça. Donc, en fait, c'est deux visions de l'Amérique qui s'affrontent. On parlait du retour des séries Navy Seal, tout ça, mais c'est ça qui se joue en ce moment dans les télévisions américaines. C'est-à-dire que d'un côté, le retour de Will and Grace, et de l'autre, une série qui s'appelle Seals sur des Marines.
Oui, et puis tu as des séries comme Homeland, parce que les auteurs de Homeland ont dit, par exemple, nous, on va faire abstraction que Trump soit devenu le président. Exactement, on va faire abstraction de ça et on va continuer à raconter notre histoire. Et justement, est-ce que là, on n'est pas à la limite, c'est-à-dire du refus de voir les choses, sachant que les auteurs américains ont quand même cette habitude-là et ce principe-là de vraiment puiser dans la réalité et dans leur quotidien pour faire leur série.
Moi, je sais pas si c'est déjà une très bonne chose. Est-ce qu'on a besoin de prononcer le mot Trump pour réfléchir sur Trump? J'en suis pas persuadé. Et The Handmaid's Tale le fait quand même très très bien. Elle le fait par ricochet. Elle est devenue quand même. Il faut voir quand même qu'aujourd'hui, The Handmaid's Tale c'est devenu un symbole politique. Les servantes écarlates apparaissent partout dans toutes les manifestations. Et c'est presque un peu le masque de Guy Fawkes de V for Vendetta qui devenait le symbole des Anonymous. Donc c'est aussi la force de la pop culture de réfléchir et de devenir un contre-pouvoir par la force de l'imaginaire. Est-ce qu'on peut aussi se débarrasser de Trump? Enfin, je pense que les Américains, ils vivent en permanence avec Trump dans la tête. S'ils allument leur télé et qu'on voit Trump, je pense qu'au bout d'un moment, on va avoir une vague de suicides. Hein.
Mais je pense aussi que derrière, on a besoin de séries patriotes et un peu plus légères et moins noires pour rappeler aussi ce qu'est l'Amérique et l'idéal américain en quelque sorte, qu'il soit politique, exécutif ou au niveau militaire, que l'Amérique, c'est des valeurs qui datent de plus de 200 ans, ancré dans le marbre, dans la Constitution, avec une histoire assez particulière, avec la guerre de sécession, le mouvement des droits des Noirs, etc., les Civil Rights Acts. Je pense qu'on, face à un Trump, à une personne aussi dure, aussi flippante que Trump, on a besoin de séries quand même un minimum positif, tout comme on a besoin d'un This Is Us qui nous rappelle l'humanité, ou d'un Sense8 qui nous rappelle que justement, être humain, c'est être global et pas seulement patriote et pas seulement nationaliste.
Ou même d'un Designated Survivor avec Kiefer Sutherland qui est un peu à l'opposé de 24, qui a un président prix Nobel de la paix avant même d'être là, parce que contre le conflit, pour la négociation, voilà.
Puis je trouve ça excellent que ce soit lui qui le fasse, parce qu'il a quand même fait tout l'inverse dans 24 heures chrono.
Là, en fait, on touche au pouvoir de la fiction. Est-ce que la fiction, elle est là pour vous mettre le nez dans la réalité ou vous en consoler? Je pense qu'on va avoir les deux qui vont se dessiner. Et puis, surtout, je pense qu'on n'est pas au bout de la fiction Trump. C'est-à-dire qu'on est. En fait, ce qui se passe aussi, la meilleure série télévisée, c'est ce qui se passe tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, qui aurait cru il y a 6 mois qu'on serait au bord de la Troisième Guerre mondiale entre deux types qui jouent à savoir qui a la plus grosse ogive? C'est quand même très étrange,
sur
en fait.
Internet,
sur Internet. C'est-à-dire que tout d'un coup.
En 140 signes.
Et en 140 signes.
Bientôt 280.
Ce qui fait qu'on est vraiment dans une sorte de surfictionnalité de la réalité qui fait que. J'ai l'impression que les séries presque, il faut qu'elles aillent ailleurs parce qu'elles pourront pas battre Trump en fait.
Il faut peut-être plutôt une réalité alternative ou une dystopie pour s'exprimer parce que le présent est tellement incompréhensible que de toute manière c'est compliqué.
Bah que penser justement de la dystopie que préparent les deux créateurs de Game of Thrones
sur Confédérates,
les Confédérates,
c'est un peu le même principe.
Parce que ça fait scandale.
Ça quand a créé des émules, mais c'est un peu le même principe que The Man in the High Castle en fait, d'imaginer ce que serait un futur si tel événement ne s'était pas produit. Et c'est tout le but de la science-fiction, de la dystopie, d'une série bien fantastique, sûr. C'est de faire réfléchir sur des personnes.
Le problème que ça a posé là, c'est sur l'histoire américaine.
C'est sur l'histoire.
C'est sur la guerre de sécession. C'est sur
deux créateurs blancs.
C'était parce que deux créateurs blancs sur une histoire de noirs. Mais justement, est-ce que des blancs ne peuvent pas parler d'un héritage noir ou est-ce que des noirs ne peuvent pas parler d'un héritage blanc?
Là, c'est à autre chose.
Oui, puis il y a le même problème avec le film de Catherine Bigelow, Détroit.
Détroit, elle a dit elle-même. Je vois vraiment pas pourquoi je pourrais pas.
Alors quand on voit le film, on comprend pourquoi, mais ça c'est.
Et enfin, il faut aussi dire qu'il y a quand même, enfin, Confédérate, c'est une des fictions sur l'esclavage, mais je crois qu'il y a Barry Jenkins, The Moonlight, qui prépare aussi quelque chose sur le réseau ferré qui exfiltrait les esclaves.
Le Underground Railroad, ouais.
En fait, là, j'ai plus l'impression qu'on est arrivé à un moment où on a envie de parler d'un passé, en fait, qui a cristallisé l'Amérique et qui a mené à élire un Trump. Il faut qu'on parle d'un passé de l'esclavage dont on n'a pas encore parlé et dont certains ont essayé avec Birth of a Nation récemment au cinéma, mais qui n'a pas eu la visibilité qu'il aurait dû avoir. Donc on va créer des séries qui font peur sur des sujets qui font mal, mais il faut les faire, je pense.
Enfin, on est un peu, comme ce que disait Henri Amouroux sur l'occupation, la page de l'esclavage n'est pas encore tournée.
Et en même temps, j'ai l'impression que les fictions aujourd'hui, elles peuvent tellement pas être à la hauteur de ce qui se passe que, en fait, la réaction du public, c'est quel est l'intérêt de nous dire, et si il y avait un monde où il y avait un taré qui, mais en fait, on y est. Donc, en fait, il y a un vrai problème d'attente du public. C'est que le public ne veut plus qu'on lui expose les faits. Je pense que les gens ont envie de solutions et je suis pas sûr que ce soit les séries qui vont lui donner.
Ou de réconfort.
Ou de réconfort, exactement.
Mais le réconfort, les séries peuvent leur apporter.
Oui, bien
mais,
sûr.
Mais au niveau de la satire politique, au niveau de la sitcom, comment faire? Par exemple, VIP, moi j'adore cette série, mais elle s'arrête là, c'est la dernière saison. Comment faire pour écrire, justement?
Mais On sort de la fiction, mais Last Week Tonight de John Oliver, c'est du pain béni pour eux. C'est-à-dire que tout d'un coup, chaque semaine, ils pourraient faire un truc sur Trump. Et même lui dit, mais en fait, au bout d'un moment, j'en ai marre. Parce que tout d'un coup, en fait, il se répète. C'est-à-dire quoi ? C'est la merde, c'est l'enfer, c'est un cinglé. Mais en fait, en même temps, vraiment, j'ai l'impression que la porte de sortie, elle est dans la pure fiction, dans celle qui n'a rien à voir avec Trump et qui va faire écho malgré elle. Et l'exemple de La Servante Écarlate, donc The Handmaid's Tale, et il est parfait pour ça, parce que la série n'avait rien à voir, en tout cas au départ, avec l'idée de Trump, mais elle résonnait avec l'Amérique et le racornissement des valeurs américaines.
Et je crois même qu'il prépare une fiction sur l'élection de Trump.
Il y a un téléfilm de HBO sur la campagne produit par Tom Hanks, mais là, bon courage à eux pour le mettre en route. Ça va faire assez vite, assez près de l'élection quand même. Et moi, si j'étais scénariste, je serais drôlement ennuyée aux entours d'eux, mais qu'est-ce qu'on peut écrire, effectivement, comme dit Ronan. Est-ce que la solution, c'est pas dans la science-fiction, dans la dystopie, ou dans des choses comme This Is Us,
ou la comédie,
la comédie. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aura pas une pause dans la fiction purement politique ou purement thriller politique?
Est-ce qu'on va sortir de l'ère de l'anti-héros aussi sur
oui.
En fait, dans 20 ans, on attend Aaron Sorkin qui fait un film sur l'élection de Trump, mais pas maintenant.
C'est très trop bien. Tôt.
Il y a quand même Stephen Colbert qui peut faire une série d'animation sur...
Next one! Whoa, wait. That's the last one!
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions?
Bonjour. Je vous ai entendu énoncer pas mal de séries qui traitaient justement de l'élection de Trump. Et il y en a une que je m'attendais à entendre et j'ai pas entendu, comme je trouvais qu'elle avait réagi très rapidement et avec beaucoup de force. C'est
The Good Fight.
Non.
Ah. Non.
Agent of Shield avec Clark, Agent of Hydra.
Oui.
Alors là, c'était quand même. Une colle.
Oui, c'est pas le même, la même qualité, mais d'un côté, l'engagement était très important et très rapide.
C'est-à-dire, il traitait ça comment? J'ai un peu fait l'impasse sur Agents of S.H.I.E.L.D., je suis désolé.
Je peux comprendre. En fait, c'était dans une réalité virtuelle où c'était Hydra, une sorte d'organisation nazie qui était au pouvoir. Ouais. Et il y avait plein de phrases qui résonnaient très comme si c'était un monde de Trump. Et on sentait les attaques qui étaient extrêmement directes envers Trump.
Et venant donc de, si je me souviens bien, de Marvel, donc de Disney. Puisque Agent of Shield, c'est Marvel, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Donc c'est Disney.
Ouais. Oui, mais le comics a toujours été un véhicule pour parler de valeurs de diversité, d'ouverture. Donc je pense aussi que... Enfin, ce n'est pas étonnant qu'ils en parlent dans Agents of Shield. Mais ce type d'épisode, ce n'est pas la première fois qu'on le voit par rapport à un événement aussi, on va dire, tragique, parce que c'est quand même tragique, l'élection de Donald Trump. Le lendemain, en suivant le 11 septembre... The West Wing avait fait un épisode spécial aussi, pareil, pour réagir à ce qui s'était passé, en donnant la parole à plusieurs personnages différents.
L'une des plus belles scènes, on n'en a pas parlé, mais c'est le début de The Good Fight où elle assiste à l'élection de Trump à la télévision et ça crée une sorte de parallèle entre le spectateur et donc le personnage qui assiste atterré à ce qui se passe. C'est vraiment une des scènes les plus fortes de l'année, en tout cas en série.
Et puis je pense qu'il y a plein de choses qui vont venir de toute façon, comme tu disais, les sitcoms ont réagi plus vite parce que
le temps d'écriture
est plus court, mais que je pense que dans plein de séries, on va avoir dans des épisodes spécifiques, on va avoir des références, on va avoir des mots, on va avoir des pics comme l'a fait Agent of Shield.
C'est encore très frais l'élection de Trump, hein. Il faut pas l'oublier.
Bien sûr, justement, avec Agent of Shield, ça a été très rapide et épisodes, du coup, je trouvais ça quand même. C'est impressionnant.
Il y aura au moins une bonne raison d'aller regarder à Jean.
Il y avait aussi quelques allusions dans Quantico.
D'accord.
Donc on peut encore regarder Quantico.
C'est une autre question.
Alors,
bonjour.
Alors moi c'est un peu particulier parce que je reviens de New York. J'ai passé 6 mois à New York.
Vous allez nous dire que tout va bien. Et que Trump n'a pas été élu, c'est un fake news.
Et que la Trump Tower n'existe pas.
Exactement, on a passé un super été. C'était magnifique. Donc effectivement, c'est l'enfer. Et chaque jour est une série et chaque jour est une fiction.
L'enfer, n'exagérons rien. Je pense qu'il y a d'autres pays dans le monde qui sont...
Oui. Mais moi, ma question, c'était... Quand je discutais avec des Américains, ils me disaient il faut que les Européens... Il faut que... Enfin, l'élection de Trump a eu un impact assez global... il parlait pas mal aussi sur l'impact culturel, donc SNL, on en a parlé, etc. Et il disait, il faut aussi, pour que ça marche et pour que finalement tout le monde pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que c'est un impact sur la culture européenne aussi. Donc à New York, c'est la ville la plus européenne des États-Unis, on l'a dit. Mais est-ce que, selon vous, l'élection de Trump peut changer quelque chose dans la façon de faire des séries en Europe et en France?
Ça répond pas directement à ta question, mais sache qu'il y a un sitcom sur Channel 4 en Angleterre qui parle de Trump. Enfin, c'est un sitcom qui brocarde la monarchie anglaise, mais Trump apparaît dedans.
Et la question plus largement, elle dépasse celle de Trump, c'est la question du progressisme en fait en série télévisée. Donc on essaye d'ailleurs de chaque semaine dans l'épisode des Jarrettes d'étudier, c'est-à-dire est-ce que les séries françaises sont plus ouvertes à la diversité, sont plus ouvertes à des questions de représentation. Et effectivement, j'ai l'impression, et on l'a vu avec l'élection présidentielle française, qui était pareil, une fiction un peu étonnante, un autre type de fiction.
Avec un meilleur happy end.
Oui, avec un happy end. Oui, voilà, effectivement, j'ai l'impression qu'on a
on verra.
J'ai l'impression qu'on assiste en tout cas à une sorte d'effet boomerang. C'est-à-dire que vous avez raison que je pense que la question de Trump et de la fiction aux États-Unis, en fait, elle est mondiale. C'est-à-dire comment on représente le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir-là, et surtout comment les séries sont, en fait, ont un poids politique et la pop culture, en fait, elle est profondément politique.
Oui, justement, enfin, face à, tu parles de rayonnance internationale, on a déjà une série, bon, certes, qui a pris un an pour revenir, mais on a déjà Sense8, en fait, qui est un peu, si tu veux, un contre-pied à ce qui se passe aux États-Unis, qui est une série internationale qui va d'ailleurs se terminer en Europe, sur plusieurs villes d'Europe. Et justement, c'est une série qui est beaucoup plus positive, qui fait un contre-pied à toute cette noirceur qui se passe aux États-Unis, avec justement des Américains dans cette série.
Mais est-ce que finalement il y a beaucoup de séries dont vous avez parlé, donc quelle est la solution finalement pour contrer Trump? Donc est-ce que c'est la dystopisation fiction? Dans la culture a toujours une certaine responsabilité politique, tout film est politique, toute série est politique. Est-ce qu'il y a une recherche de solutions, ou alors est-ce que tout le monde balbutie un peu et est encore sous le choc?
C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il faudra du temps, il faudra regarder les bonnes séries, il faudra voir qui réagit.
C'est compliqué, un film qui arriverait en vous disant j'ai la solution.
Oui, ça va.
Moi,
ça
je le regarderais en.
C'est tellement surréaliste déjà qu'il soit à la tête d'un pays avec un caractère pareil que du coup, il faudrait vraiment du temps pour qu'un scénariste arrive à analyser le psyché d'un personnage pareil.
On est en plein dedans.
Et surtout, quand on est à l'extérieur et quand on n'est pas américain. Donc je pense qu'il faut vraiment attendre peut-être 3-4 ans avant de voir une œuvre qui puisse justement analyser ce qui s'est passé, analyser pourquoi cet homme est arrivé au pouvoir et comment il a pu y arriver, et surtout qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête pour qu'il se présente.
Et faire une analyse générale pour tout le monde aussi.
Et tu dis 4 ans, mais s'il est réélu dans 4 ans, alors là, je ne sais pas où on va. Hein.
Bah, on fera un deuxième épisode.
on prie.
Enfin, je ne sais pas si la fiction européenne ou la fiction mondiale peut apporter une réponse à Trump, mais nous, avant de parler de Trump, il faudrait aussi qu'on parle de l'extrême droite. Ouais. Est-ce que ça va être significatif que Marseille et Baron Noir saison 2 en parlent ou ont une arche narrative autour?
On parle aussi de notre héritage. Il y a la colonisation, à la diversité, on a déjà...
Est-ce que c'est pas une catharsis qu'on doit faire tous ensemble? Enfin, le but, c'est pas de jeter des pommes de terre pourries sur l'Amérique. Enfin, il y a tellement de sujets tabous dans notre fiction qu'il faudrait peut-être déjà commencer par là.
Si nous, on commençait vraiment par avoir une véritable ouverture, c'est-à-dire parler de notre propre culture, notre propre histoire, ne pas avoir peur de parler d'événements récents, que les producteurs prennent des risques, c'est-à-dire que ne disent pas sans arrêt ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça,
c'est
etc.
C'est trop risqué, on va pas se faire financer.
Non, mais de façon plus générale, et qu'on parle, quand on pense qu'il a fallu attendre des années en France pour voir un film sur l'Algérie, par exemple, nous, il faudrait peut-être vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire pour nous regarder nous-mêmes, savoir ce qui va pas et progresser. C'est peut-être une bonne façon
de
les
Américains. Et même tout bêtement sur une histoire très ancienne, à quand une grande fiction sur la guerre de religion qui ne dépend pas de Dumas et de la reine Margot, par exemple?
Il y a encore une question, vous avez... Non.
Non, mais en fait, moi, ma question, c'est est-ce que les séries qui ont été développées avant Trump et on va dire. Qui sont développés un peu indépendamment de ces problèmes-là, comme Handmaid's Tale, des choses comme ça, qui ont un regard politique nouveau avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir ces séries-là ou ces projets-là avorter parce que finalement ces projets ou ces séries provoquent, ou en tout cas divisent encore plus la population que la rassemble.
Je crois que c'est une question d'image de marque, des networks qui les habitent, en tout cas. C'est-à-dire
quand même beaucoup des chaînes du câble à chaque fois. Voilà. C'est pas les networks qui produisent ce genre de série.
Oui, effectivement, en plus. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une forme d'image de marque à avoir et une manière de se positionner en fait contre Trump et de l'afficher. Et on voit à quel point ils ont besoin de ça, qui paraît presque absurde de notre point de vue, mais qui en fait, je pense aux États-Unis, qui est un vrai pays divisé en ce moment. Il y a vraiment des chaînes. On pense à Fox News et des choses comme ça, des chaînes qui sont en fait pro-Trump et puis des chaînes qui ont besoin de dire qu'elles sont anti-Trump.
On va s'arrêter là, ça fera peut-être l'objet d'un autre débat, hein. On verra. Et ce sera le mot de la fin de cet épisode de la saison 2 de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de série, en partenariat avec Binge Audio. Merci à Asma El Mardi de Brain Damage, Constance Jamet de Figaro et Ronan Crowe de Cinématiseur. Merci à Bristar, à la technique et enfin merci au public de l'antenne. Ça ne se voit peut-être pas, mais d'après les organisateurs, ils sont 500 millions et d'après la police, ils sont 3. La semaine prochaine, nous serons avec un nouveau podcast qui sera consacré à Stranger Things. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça devrait très très bien se passer. D'ici là, n'hésitez pas à liker la page Facebook de l'ACS et à suivre le compte Twitter de Un épisode et j'arrête, où vous pourrez suivre l'actualité de l'ACS et de notre podcast. Au revoir à tous et à toutes et à la semaine prochaine.
Next one.
Whoa, wait.
What?
That's the last one.